Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous choisir sur la 93.5 Radio Canal FM. Nous sommes au mardi 29 octobre 2024. Il sonne 11h sur votre radio. Et vous comprenez que le deuxième numéro de l'émission Club de la Presse démarre ainsi. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Itek aussi d'ATV assure la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Merci à vous tous qui nous suivez aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous nous suivez aussi sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, et de l'Afrique, notre continent et aussi alors du monde entier. Merci de nous choisir et c'est avec alors nos confrères journalistes en studio avec moi, confrères déjà en studio avec moi, c'est Eric Parkoudjo-Josson. Eric, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour grand frère et bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. Et
j'espère que tu vas bien Eric.
Oui, ça peut aller, merci.
Dieu merci, ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission Club
de
la Presse.
Merci pour l'invitation aussi.
Merci d'avoir répondu justement à cette invitation. Ça fait bien plaisir. Je ne le laisse pas alors s'installer avant de lui souhaiter même d'ailleurs la bienvenue. Et lui dit un petit bonjour, Isidore Atialo Akolo. Bonjour.
Bonjour Pascal. Bonjour confrères qui viendront et celui qui est déjà là et à l'invité aussi. Bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien.
Ah, togolaisement bien.
Togolaisement bien. Et alors, ça fait toujours plaisir de vous avoir aussi dans cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous savez que c'est le devoir qui nous appelle et nous avons répondu à ce devoir civique.
Ah oui, ah oui. Et c'est un sacerdoce.
Tout à fait. C'est un sacerdoce au-delà du devoir. C'est un sacerdoce, c'est un sacrifice. Merci d'avoir répondu à ce sacerdoce. Alors, chaque mardi, vous le savez, nous parlons culture et le littéraire. L'homme qui est toujours avec nous pour parler littérature, c'est bien Claude Assiobotis. Claude, bonjour.
Bonjour, bonjour.
J'espère que tu vas bien.
La togolaise, comme il a dit, c'est-à-dire coussi coussa.
Ah bon? D'accord. Alors, Claude, c'est vrai que nous avons amorcé récemment une série de chroniques sur la littérature togolaise qui sera à la fin le point d'ancrage de notre émission littéraire des mardis que nous appelons désormais la bibliothèque animée. La dernière fois, nous avons fait un état des lieux, sur le palmarès des écrivains vivant au Togo. Aujourd'hui, nous allons faire le même exercice sur ce que nous appelons les écrivains absents. Claude, pouvez-vous nous rappeler le contenu de ce concept d'écrivain absent et les citer?
Oui, déjà là, je vais aller très rapidement. Je ne vais pas dérouler la liste, puisque je vais revenir après sur leur nom, tout ça, pour ne pas faire des redites. Et je dirais simplement que je les classe en trois sous-catégories. Il y a ce que j'appelle les exilés. Elle est exilée, mais en réalité, c'est un ensemble singleton parce que l'exilé dans cette sous-catégorie, c'est Agbota Zissou qui est parti au cours des événements, l'événement malheureux où les hauts conseillers ont été séquestrés. Il était haut conseiller, mais il est parti. Depuis là, il n'est pas revenu. Mais je crois que depuis là, il pouvait quand même revenir. S'il n'est pas revenu, je crois je peux parler ça d'exil volontaire. Donc, finalement, il faut le classer dans la diaspora. Il y a la diaspora, les écrivains de la diaspora. Je vais revenir sur leur nom, c'est ça. Et il y a les décédés, ceux qui sont décédés, Félix Couchereau, tout ça, Sena Kwasi, etc., etc.
Bon. D'accord. Mais Claude, comme la dernière fois, quel est le profil de chacun de ces auteurs cités?
Oui, ce que je mettrai encore en tête, à la tête de tout ça, les écrivains décédés, vous parlez des écrivains décédés ou des écrivains?
Oui, mais absents.
Absents, non. Oui. Absents, il y a trois catégories.
Tout à fait.
Et j'aurais aimé aujourd'hui qu'on parle des écrivains de la diaspora.
D'accord.
Puisqu'il y a les écrivains de la diaspora et les écrivains décédés. J'aurais préféré aujourd'hui que notre chronique soit centrée sur les écrivains de la diaspora.
Justement, allons-y donc.
Et les écrivains de la diaspora dans lesquels je mets Agbota Zissou, c'est quelqu'un qui a brillé. Hein. Il a fait le plus beau temps de la littérature togolaise au classique théâtre Togo. Il a brillé surtout par le théâtre, par, avec une pièce emblématique, On joue la comédie. Hein. C'est dans cette pièce, il a ciblé ici, il a ciblé la dictature, mais pas directement, sous couvert de l'apartheid. Hein, il utilisait l'apartheid, le régime apartheid, mais pour parler indirectement de la dictature africaine. Hein. C'est ce qu'on appelle la technique de la distanciation. Hein, la distanciation. Et il a utilisé aussi la technique, il utilisait aussi la technique du concept party. Hein, la technique du concept party dans ses œuvres. Et c'est surtout quelqu'un qui a montré aux jeunes écrivains qui seront très percutants que la littérature, ce n'est pas les thèmes seulement, disons. Ce n'est pas les thèmes, ce n'est pas les thèmes. La littérature, c'est un travail d'écriture, c'est un travail sur l'esthétique, hein, c'est un travail artistique. C'est lui qui a enseigné ça surtout par son œuvre aux jeunes.
On parlait là d'Agbota Zissou.
Agbota Zissou, c'est ça, Agbota Zissou. Et ça a produit des écrivains et qui malheureusement, pas malheureusement, enfin, ça dépend, qui vont évoluer à l'extérieur, dans la diaspora. En tête, vous avez Kossié Fui, avec son œuvre qui a eu le même prix que ce que Agbota Zissou a eu, un prix RFI, j'oublie un peu le nom, avec son œuvre Carrefour, il a écrit après des romans, ça, Carrefour, c'est une pièce de théâtre, Solo d'un revenant, Le cantique d'Acacia, bon, beaucoup de nouvelles, hein. Je me souviens, ça m'est toujours resté, c'est quelqu'un, je me souviens de cette nouvelle-là, où il décrivait le Togo du 13 janvier, je crois, ouais, ou du 27 avril, où le journaliste disait, c'est dans un reportage, aujourd'hui c'est l'affaire nationale, deux points, rien à signaler. Voilà, c'est un grand provocateur. Bon, il y a Kaline Kani-Alem, hein, Chemin de Croix, il a écrit Chemin de Croix, et Esclave, et d'autres œuvres. Et des Mahoumets, qui a écrit Port Mélo, etc. Il y a aussi une autre seconde œuvre. Dans toutes ces œuvres, on trouve ouvertement, cette fois-ci, ce n'est plus la distanciation. Il y a la hantise. Il décrit une dictature primitive et d'une façon ouverte. Il n'y a plus de distanciation. Bien sûr, la période aussi a beaucoup joué. La période a beaucoup joué parce que on était déjà dans la glasnost, dans la perestroïka. Le mur de Berlin commençait à bouger. Donc, ils étaient plus à l'aise pour parler de cette dictature-là. Et surtout, beaucoup d'esthétique. Hein, le travail d'écriture est devenu très prononcé. Ils ont une préoccupation pour le travail artistique dans leurs œuvres. Hein, beaucoup de jeux de mots, de styles, des techniques sur la narration, s'il s'agit de romans.
Est-ce qu'ils donnent même une richesse à la littérature?
À la littérature scénique. Mm. Hein, on dirait que c'est de la vraie littérature, la littérature riche. Voilà. Mais il y a je peux citer quelqu'un qui est un peu différent, Théo Ananisso, chez lui aussi, c'est toujours la hantise de la dictature, spécialement dans son œuvre Ténèbres à midi, le titre même en dit long, mais lui il a une écriture plutôt classique, très incisive, et puis il est... moi, lorsque j'ai commencé à le lire, je tout de suite, je me dis, mais est-ce que ça, ce n'est pas Gide? Il est beaucoup Gide. Gide, lui-même, qui parlait de la banalité supérieure. Une écriture très dépouillée, incisive, comme le bistouri d'un chirurgien, pour aller directement aux choses. Il a ce style-là, et il la pratique très bien. Hein? Il y a ça, c'est Théo Nanisso. Et il y a aussi Sami Tchak.
Voilà,
il faut lui faire une place spéciale. Lui, il va inaugurer l'écriture même de ce qu'un universitaire togolais appelle l'écriture sans cache-sexe. Sans cache-sexe, ça, il ne voit plus le sexe.
Hein? C'est sans tabou, là.
Et c'est sans tabou, voilà. Le sexe sans tabou, il a commencé déjà ici avec l'œuvre Femme infidèle. Et puis. Et avec Place des Fêtes, et la Fête des Masques, et etc. Il y a d'autres œuvres où il parlait du centre tabou. Et il a même inspiré des écrivains sur place, hein, quelqu'un comme Matt Faré, hein, quelqu'un comme Sandra Ayavi, voilà, etc. etc. Bon, je peux m'arrêter là.
D'accord.
La conclusion que je peux faire, c'est que sur le plan technique de l'écriture, c'est des œuvres très réussies. Mais sur le plan, le fond, cette rentise de l'écriture, cette rentise thématique de la dictature, je me demande ce que ça peut devenir, ou ça commence à devenir, lorsque nous allons sortir de la période, carrément, de la période de la dictature.
D'accord.
C'est ça que je pose cette question.
D'accord. Eric, une question pour Claude.
Oui, Claude, comme tu viens de conclure tout ce que tu as dit, je pense que c'est le temps. Hein, le temps, ces écrivains-là vivaient un temps, une période. Et donc, ils ont écrit par rapport à ce qu'ils vivaient. Et c'est comme on a l'habitude de dire en littérature, c'est des historiens du présent. Et je pense que on va pas les condamner pour ce qu'ils ont fait, mais c'est peut-être qu'ils n'ont pas ouvert leurs œuvres sur le futur, l'avenir. Ça aurait été, à mon avis, quand même quelque chose de mieux, de bien pour les générations futures.
Non, on ne peut pas les condamner. Et ça fait partie même de l'écriture choisie. Hein, on choisit, on ne peut pas les condamner. De toute façon, c'est des œuvres qui vont demeurer comme des monuments esthétiques. Hein, et le fond peut... Mais c'est des œuvres, ce serait de toute façon des œuvres historiques. Hein, des œuvres historiques. Et lorsque les générations futures vont vouloir, vouloir vérifier, revisiter l'histoire du Togo ou de l'Afrique en général, eh bien, sur le plan de la fiction, il n'y a pas que les historiens. Et là, ça, il y aura de la matière où ils vont puiser. C'est sûr.
D'accord.
Mais c'est que souvent, les œuvres qui résistent au temps surtout, c'est des œuvres qui traitent des thèmes qui résistent justement au temps. Et c'est un simple souhait. Mais c'est de grandes œuvres qui vont démarrer.
Ouais. D'accord. Isidore ?
Oui, ce qu'il dit, c'est trivial. Cependant, quand vous voyez l'évolution démocratique sur le continent, nous ne sommes pas sortis de l'ornière. Le dernier des empires, c'est toujours d'actualité.
Oui.
Et je crois que c'est l'autre, le nom m'échappe un peu, mais ça me reviendra.
Oui.
Mais il parlait d'Amadou Ahidjo. Oui, aujourd'hui, ce qui se passe encore au Cameroun est toujours d'actualité.
Oui, mais...
d'actualité.
Non. Les œuvres que je viens de citer sont terriblement actuelles. Hein, si ce n'est pas encore
oui,
passé.
Moi,
le problème que je pose, c'est pour le futur. Aujourd'hui, c'est des œuvres qui tiennent encore la route. Mais je vais vous donner un exemple.
Ou Alessandro Bidi.
Si vous prenez, c'est celui qui a écrit le
dernier des empires.
Bon, je ne me souviens plus.
Oui.
Esaboto, Alessandro Bidi, Mongo Betty, c'est le même personnage.
Oui,
le même écrivain. Mais ce que je dis, si vous prenez par exemple comme chemin de croix de Kanyalé.
Oui, oui.
Il fallait assister à sa représentation au CCF à l'époque.
Ouais.
Hein, à l'époque. Mmh. Mais c'était une œuvre très percutante. Très percutante. J'ai assisté à la représentation du même livre au CCF. J'ai senti quand même un décalage dans le temps. Ce n'est plus... Ce n'est plus
adapté.
Parce que si vous prenez par exemple le Togo, quelque chose a bougé quand même. Hein.
Ouais.
Et c'est quelque chose a bougé. C'est que... Est-ce que vous suivez? Il y a des choses qu'on peut dire aujourd'hui. Quelque chose a bougé. Mais là, sur le plan esthétique, ça résiste. Mais c'est ça qui me fait dire ça. Mais je ne croyais pas que... Ce que je dis, ce n'est pas pour le présent. Beaucoup de ces œuvres qui parlent de la dictature. Mais ces œuvres, par exemple, aux Ghanéens, dans les pays où l'ouverture est déjà une réalité, ce serait un peu du passé pour la jeunesse.
Tout à fait.
Hein? Sauf si on l'étudie en littérature. Mais l'histoire continue. Hein? Même ce que nous appelons la dictature et la colonisation, ce n'est pas seulement une dictature sur le plan politique. Il y a d'autres dimensions que les critiques vont étudier pour redonner même à ces œuvres-là une certaine fraîcheur.
D'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup, Claude. Oui. Nous sommes rejoints par notre confrère
Sam Diobo.
Sam, bonjour.
Bonjour, Pascal. Bonjour aux confrères. Bonjour aux douanes. Bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de la
Sam, j'espère que tu vas bien.
Oui, ça va beaucoup mieux après une grippe d'une semaine presque. Mmh.
Il semble que ton micro fait un peu de bruit. Nous allons demander à Thomas de régler cela, ou du moins nous allons changer même d'ailleurs de place pour que voilà, ça va mieux maintenant. Sam, ça va mieux maintenant. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour Audouin.
Voilà.
Bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de la nouvelle génération.
Voilà, je demandais si tu vas bien.
Oui, ça va beaucoup mieux après une semaine de grippe. Mmh. Bien que ce ne soit pas la grande forme, mais on a l'obligation de venir rendre fidèlement compte aux auditeurs de l'actualité nationale et internationale.
Mmh, c'est très important. Alors, Sam, je ne sais pas si vous avez une question pour Claude.
Non, une question, pas une question, mais peut-être
n'importe.
Dire à Claude tout le bien qu'il fait à la génération actuelle, parce qu'il replonge les élèves et nous-mêmes dans les méandres de la lecture, de la littérature.
Tout à fait.
Il donne encore le goût aux Togolais ou à ceux qui pensent que les supports électroniques peuvent valablement remplacer les livres, qu'ils ont encore de bonnes raisons de courir rapidement dans les librairies pour se procurer des œuvres littéraires.
Merci beaucoup. Hein, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir. Vous passez une bonne journée.
Merci.
D'accord, merci. Alors, sans transition, nous parlons du football. Eric, c'est vrai que vous êtes revenu hein, sur le jubilé de la légende du football togolais. Et je vais bien parler alors de Cheikh Emmanuel Adebayo et vous écrivez football, jubilé, la FTF honore Cheikh Emmanuel Adebayo pour ses services rendus à la sélection nationale. On se souvient déjà le dimanche, c'était au stade sur le stade de Kégué, bien sûr, que l'ancien capitaine alors des Éperviers a célébré ce jubilé. Et ce jubilé, c'était avec un match de gala qui a rassemblé des joueurs de taille.
Oui, c'est quoi de plus normal hein, pour que les autorités togolaises rendre quand même un hommage mérité à Cheikh Adebayo qui a été pendant longtemps le capitaine de l'équipe nationale, qui a été une figure de proue dans le football togolais, qui a joué dans plusieurs clubs, grands clubs européens et internationaux. Et donc, je crois que Cheikh s'est dit, je veux arrêter définitivement le football. Et pour cela, il a organisé son gala en invitant ses anciens coéquipiers, des joueurs de grande posture qu'on connaît, aussi bien africains qu'européens et américains. Tous étaient là pour se jubilé, ce gala. Et donc, je crois que pour ce gala, c'était dit au départ que ça allait être gratuit, l'entrée serait gratuite pour tout le monde. En temps, on a eu un message comme quoi il fallait payer un ticket à 5000 francs. Mais après, finalement, on a eu vers 11h le dimanche, on a eu un autre message qui dit que non, que le chef de l'État a offert gratuitement cette entrée-là à tout le public togolais, c'est-à-dire ceux qui aiment le football. Je crois que c'est une très bonne chose parce que le chef de l'État comprend quand même aujourd'hui que le football rassemble les Togolais. Et donc, on a vu un stade plein et les gens ont aimé quand même ce qui a été fait. Et c'était quand même une occasion pour le ministre des Sports et le président de la Fédération togolaise de football de rendre un hommage à Chehi en lui disant que c'est au nom du chef de l'État. Donc, ça veut dire que c'est au nom de tout le peuple togolais que cet hommage-là lui a été rendu.
C'est vrai que Chehi Emmanuel Adebayor vient de ranger même les crampons ici. Et on a connu Chehi Emmanuel Adebayor dans l'équipe nationale. Et celui-là même d'ailleurs qui a révolutionné le football togolais. Et aujourd'hui, c'est un modèle pour le football togolais.
Chehi Emmanuel Adebayor doit être définitivement une source d'inspiration pour tous les jeunes qui veulent s'adonner au football. Parce que bien avant Chehi Emmanuel Adebayor, il y a eu des footballeurs togolais, mais des gens qui n'ont pas pu hisser ni leur propre nom, ni le nom du Togo dans le concert des grandes nations dans le domaine du football. Et aujourd'hui, je crois que c'est déjà en 2002 qu'elle a été révélée aux Togolais, après la CAN du Mali et tout, où il a fait ses premiers pas à l'international, à Metz, Monaco, Tottenham, beaucoup de clubs internationaux, Arsenal, Madrid et tout ça là. Mais aujourd'hui, Emmanuel Adebayor, grâce à lui, dans certaines contrées du monde où les gens ne connaissent pas, n'entendent pas assez parler du Togo, mais quand on dit Togo, ils font déjà le lien entre le Togo et Emmanuel Adebayor. Donc je pense que c'est déjà une bonne chose et à cause de ça, ou pour cette raison, il fallait que le stade de Kégué soit comble la dernière fois. Et vous allez remarquer même que lors de ce jubilé, lors du tournoi qui a rassemblé beaucoup de stars du monde entier, Emmanuel Eboué, Eto et fils,
Okocha,
Okocha, Asamoah Gyan, ils étaient très nombreux à venir pour célébrer la fête du football ou bien l'arrêt de la carrière de Adebayor Chehi. Et vous allez voir qu'au niveau de la route de Kégué, c'est les deux voies qui avaient été bloquées. Alors que lorsque les éperviers jouent, parfois c'est une seule voie qu'on bloque. Mais dans toutes les ruelles, le jour-là, il y avait plein de monde. Ça veut dire que l'homme, par sa dimension, était tellement immense. Et il faisait un peu l'unanimité dans la tête de beaucoup de sportifs togolais. Maintenant, au-delà de ça, le gouvernement a été représenté par la ministre des Sports, le président de la Fédération togolaise de football. Mais moi, j'aurais voulu que Adebayor, que ça ne s'arrête pas en si bon chemin, que le gouvernement aille au-delà de ce jubilé, parce que le jubilé a été organisé par la star elle-même. Le gouvernement peut initier, soit on peut dénommer, soit une rue, ou le stade de Kégué qu'on peut baptiser stade Emmanuel Adebayor Chehi, comme le stade de Tchévié qui porte le nom de docteur Kaolo. C'est pas une mauvaise chose. Ou alors ériger un monument de Emmanuel Adebayor dans un coin de rue, histoire déjà de lui reconnaître tous ses mérites de son vivant, qu'on n'attende pas qu'il décède un jour pour qu'on puisse rendre cet honneur. Maintenant, l'autre côté de ce jubilé, c'est que moi j'aurais bien voulu voir tous les coéquipiers de Emmanuel Adebayor Chehi au niveau des éperviers, du genre les Nibombé Daré, les Koubadia Kader, les Olufade Adekambi, voilà, tout ce beau monde-là, jouer dans une même équipe avec lui, histoire de se rappeler les bonnes périodes ou la belle époque de 2006 où le Togo a encore fait rêver les Togolais lors de la Coupe du Monde jouer contre les équipes des stars internationales, les Eto'o, consorts, les Grand P et tout ça là, jouer et qu'on voit le bon football et qu'on sache que au-delà du fait qu'il fait l'unanimité au niveau des stars internationales, dans son propre pays et avec ses coéquipiers aussi, il fait l'unanimité. Moi, je n'ai pas vu ça et c'est le côté qui m'a un peu choqué. Mais je pense que ce n'est pas encore tard. La star peut toujours se ressaisir.
D'accord, ce n'est pas encore tard. Isidore, c'est vrai que quand on prend le football aujourd'hui au Togo, quand les parents regardent même d'ailleurs leurs enfants qui s'intéressent au football, grâce à un certain Adebayo, Emmanuel Chehi Adebayo, on se dit, mais on peut encourager cet enfant à devenir quelqu'un. Donc ça veut dire que Emmanuel Adebayo reste une source d'inspiration.
Il y a de l'aura, ça c'est vrai. On ne peut pas le nier, mais c'est ça, je vais prendre la balle au bon. Là où ça m'a chuté, est-ce qu'il ferait vraiment l'unanimité au sein des éperviers? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et en tant que modèle, je ne pense pas qu'il puisse en être un. Il n'a pas la hauteur d'esprit. Il veut régler les comptes aux gens. Tu l'as si bien dit. Il a été capitaine. Capi, c'est ça qu'on l'appelait. Pourquoi ne pas rassembler? Il n'est pas rassembleur. Un leader doit être un rassembleur. Ayons le courage de le lui dire. Il n'est pas rassembleur. C'est un vindicatif. À chaque fois, il aime régler les comptes aux gens. Il ne veut pas être un leader. Même si il a des qualités intrinsèques. Même quand on parle de qualités intrinsèques, moi j'ai connu Chehi au niveau de Côte d'Ivoire. Son grand frère Pita jouait mieux que Chehi.
C'est une question d'étoile.
C'est une question d'étoile.
C'est justement.
Il a l'aura. Mais il ne sait pas rassembler les gens autour de lui. C'est tout son défaut. Même quand vous voyez les gens, le jubilé s'est passé où? C'est passé à Kégué et chez lui, c'est tout. On n'a pas senti l'émulation ou l'engouement.
Une cohésion.
Une cohésion sociale. Ma femme qui revenait de je ne sais pas quel jour, qui s'est arrêtée dans la rue et distribuait de l'argent comme ça. Mais ça, il faut qu'il arrête ces histoires-là.
Il a arrêté, non?
Et qu'il arrête ça.
Ça il a arrêté avec le jubilé.
Non,
il a arrêté. Non, je pense que...
Moi, j'ai connu Chehi tout petit. J'ai connu Chehi dans son évolution quand on était à Tropic FM.
Oui.
Il faisait les couloirs à l'aide. Oui, mais oui. Où sont aujourd'hui et ceux qui l'ont porté?
Tous ses amis
d'antan, oui. Qui ne veulent pas, qui veulent chaque fois lui conseiller. Mais Chehi est quelqu'un, il est taciturne. Si tu veux donner un conseil, tu deviens son ennemi.
Oui.
Les Blaiseau Elzo, oui. Les MEP et autres là.
D'accord. On est d'accord. Oui. C'est. Tu disais qu'il est taciturne, il est vindicatif.
Tous les adjectifs aussi.
Pourquoi pas lunatique?
Je veux dire,
oui, il y a des moments où il a eu à s'intéresser à des choses qui ne sont pas de son niveau, il s'est rabaissé. Je pense que c'est pour tout ça. La dernière fois, il a quand même demandé pardon.
Il a présenté ses excuses. Il s'est agenouillé devant le public.
Oui, pour dire que c'est vrai qu'il a eu à commettre des erreurs et que tous ceux qui ont été touchés par ses comportements, ses propos et autres, que tout le monde lui pardonne. Je crois que c'est le temps du pardon. Il faut quand même le lui concéder parce que aujourd'hui, et comme nous tous nous l'avons reconnu, il est une légende pour le Togo. Et comme quoi, on va plutôt prendre le bon côté pour le porter. Et comme ce qui est très important, c'est que logiquement, il doit être un modèle dans son domaine. Laissons tout ce qui est comportemental, mais dans son domaine, le football, il est un modèle que les jeunes doivent forcément imiter.
D'accord.
On a besoin aujourd'hui d'un buteur au sein de l'équipe nationale. Les jeunes qui sont là n'arrivent plus à marquer. Quand ils sont devant les buts, on ne sait pas ce qui se passe et il rate tout. Je pense que nous allons accepter ce pardon-là pour que Chey reste ce qu'il est pour
il a raté l'occasion de jouer ce rôle. Beaucoup de ces joueurs-là sont allés à l'école du football, devenus entraîneurs. Chey ne l'a pas fait. Il a raté l'occasion
mais
de devenir...
C'est pour cette raison que je pense qu'il a créé aujourd'hui...
Une fondation.
Non seulement une fondation
ne suffit
mais
pas.
Un centre de formation des jeunes. Je crois que c'est déjà grand.
Il n'est pas obligé de
devenir coach ou je ne sais pas. Mais fondamentalement, ce qu'il a fait, je crois que si tu vois son centre... qu'il a créé, c'est un peu vers Notien ou je ne sais pas.
Lavier.
Dans la Vée, il
organise des escapades sans avoir des...
C'est un centre
de refuge.
D'accord, ok. Moi, ma question, c'est de savoir...
J'espère que ce soit un centre de refuge.
Oui, Isidore, merci beaucoup. Merci, Isidore. Alors, ma question, c'est de savoir... Est-ce que le Togo, quand je parle du Togo, je veux bien parler de la fédération et aussi même d'ailleurs de notre équipe nationale, les Éperviers du Togo, profite maximum, ou au maximum, j'allais dire, de ce parcours riche d'Adebayor?
Moi, je pense que, à l'entame de mon propos, j'avais dit que Adebayor devait être une source de motivation pour les jeunes. Ne serait-ce qu'à voir son parcours pour des jeunes qui veulent se lancer dans la carrière. Adebayor est déjà un modèle pour eux. Ils doivent s'en inspirer. Chacun doit vouloir faire comme Adebayor pour hisser son propre nom et hisser le nom du pays. Maintenant, au niveau de la fédération, est-ce que, peut-être je vais renverser la question, est-ce que la fédération même se donne les moyens pour tirer le maximum de profit de ce monsieur? En faisant quoi, par exemple? En l'incorporant, par exemple, dans un staff d'encadrement des Éperviers. C'est vrai que Isidore a parlé de son comportement. Ça, c'est depuis le bas âge. Parfois même, c'est difficile de changer quelqu'un qui a reçu une mauvaise éducation dès le bas âge. C'est compliqué. Donc, il a traîné ça comme ça jusqu'à... Parce que déjà, très tôt, il a quitté Lomé pour se retrouver à l'international. Donc, quelqu'un qui peut toujours être sous l'ombre de son grand frère Pita, dont tu parles, pour continuer par avoir des coups de poing sur la tête, il ne l'a pas eu. Donc, il a poussé la grosse tête très tôt. Donc, quelqu'un comme ça... Son comportement, si on veut s'attarder sur ça, on ne pourra pas tirer profit de lui. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un qu'on doit toujours consulter. Je dis consulter parce qu'il a une référence. Dans son domaine, il a une référence. Dites-moi quel Togolais a eu le ballon d'or africain. Il n'y en a pas. Il est le seul.
Il est le seul à l'avoir.
En Afrique, quand on veut les compter, ils sont au bout des doigts à avoir eu le ballon d'or. Donc c'est quelqu'un, si vous ne voulez pas tirer profit de lui, il va continuer ses escapades. C'est quelqu'un qui aime la danse, il aime la fête. Mais il faut toujours... lui rappeler que ton parcours que tu as eu là peut toujours être utile pour la fédération. Et vous allez voir dans le lot, des gens vont vouloir grandir dans son ombre et ils vont arriver sur le même piédestral.
C'est quoi? Qu'est-ce que dit l'adage? Oui. Un enfant qui trouve de l'argent, il fait quoi?
Il achète des bonbons.
Justement,
c'est ça le problème. Il a eu l'argent très tôt.
C'est ce qu'il a eu. Bon. Aujourd'hui, comme tu dis, Chey, il est sur des chaînes internationales comme consultant. Où il lit le football, il commente le football, il commente les matchs, il parle football. Ouais. Je pense que c'est déjà une référence. Mmh. le comportement, on dit là, c'est sa seconde nature.
Ouais, ça, hein,
on va le lui concéder et on va plutôt chercher à voir ce que nous pourrons réellement tirer de l'homme aujourd'hui.
Ah oui, mais justement, Isidore, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour tirer le maximum alors d'Adebayo Shehi?
Moi, je pense que tout dépendra de lui. Hein. Tout dépendra de lui. Et je me souviens, à chaque fois, il voulait porter sa contribution à l'évolution du football togolais, mais il n'a
jamais
été... Mais
il semble qu'il y a toujours d'obstacles.
Oui, oui, il n'a jamais été accepté. Pour quelle raison? Il faut qu'il se pose lui-même la question de savoir pourquoi, avec tout ce bagage que j'ai, on ne m'accepte pas. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Même dans notre domaine, tu peux être bon, mais si tu n'es pas quelqu'un de humble, les gens ne vont pas t'accepter. L'humilité manque énormément à Shehi. Je n'ai rien contre Shehi. Je l'ai connu à bas âge. J'ai vu son évolution. Je parlais tantôt de Topic FM. Oui, oui. Mais je l'ai connu. Il y a des gens,
Dima Oyaole,
mais a émergé avant Shehi.
Oui. Même les Oulufadé,
c'est déjà bon, au moins un minimum d'humilité. Et ça manque énormément à Shehi.
Oui, je pense que ce que Isidore dit, il a raison, parce que pour que Shehi soit ce qu'il est, parce que le football c'est un sport d'ensemble. C'est-à-dire que tu peux pas être seul, tu joues, tu as toujours des coéquipiers qui te font soit la passe, à qui tu fais la passe. Et c'est le tout qui fait la gloire d'une équipe. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il devrait refaire la paix avec tous ceux dont il a clashé.
Il a demandé pardon. Là.
Oui, pardon, mais ça dit que, par exemple, pardon, tout le monde connaît ses affinités avec Agassa.
Oui.
Les gens savaient très bien qu'il est avec Agassa.
Oui.
Un jour, dans un live, il a fallu...
Dans l'histoire de
Koubadia Kader, où il a demandé à Agassa de venir faire un témoignage, il a fallu que l'une... n'apparaissent pas dans le live ou que ne perd pas la parole et puis c'est fini, il lui a tourné le dos. Donc c'est quelqu'un qui est comme ça côté comportement. Maintenant, il faut que lui-même, parce qu'il a raccroché les crampons justement, il faut qu'il prenne de la hauteur et qu'il sache que le pays a besoin de lui pour qu'il continue d'inspirer les gens.
D'accord. Alors, nous allons quitter le sujet. Hein. On s'intéresse à un autre sujet. Et Eric, intéressons-nous à ce sujet que vous avez évoqué ce matin à la une de votre journal. Et je veux bien parler alors de secteur minier. Vous écrivez secteur minier, divulgation difficile des bénéficiaires effectifs. Le taux de participation de contrôle à considérer descend à 10% ou plus.
Oui. Alors, tu as lu le titre « Divulgation difficile des bénéficiaires effectifs ». Qu'est-ce qu'on appelle dans le secteur minier un bénéficiaire effectif? En réalité, c'est le propriétaire de l'entreprise minière qu'on appelle bénéficiaire effectif. Moi, je dirais les PDG, mais qui sont fictifs, qui sont cachés quelque part. L'initiative ITE a demandé à tous les États de faire un état des lieux de tous les propriétaires des entreprises minières.
Des bénéficiaires effectifs.
Oui, des bénéficiaires effectifs. Mais dans aucun des 56 pays qui sont dans cette initiative-là, personne n'arrive à donner exactement les noms des bénéficiaires effectifs des entreprises minières. La raison, disons qu'il y a ceux-là qu'on appelle des personnes politiquement engagées qui sont pour la plupart des bénéficiaires de effectifs de ces entreprises minières. Mais ils sont tapis dans l'ombre. Mais c'est parce que la loi n'est pas contraignante à ce niveau. Quand vous allez créer une entreprise tout à l'heure, vous mettez, à la fin, vous voyez, on met nom du gérant. on ne dit pas le nom du propriétaire. On dit nom du gérant. Ça veut dire que si je crée une entreprise minière, je peux mettre n'importe qui comme gérant. Moi-même, je suis derrière. Or, l'initiative ITE, c'est pour le contrôle de ces entreprises-là. Qu'est-ce qu'elles produisent? Comment elles commercialisent? Qu'est-ce qui rentre, etc. C'est le contrôle sur toute la ligne de ces entreprises minières-là. Mais pour faire le contrôle en interne d'abord, il faut qu'on connaisse ceux qui contrôlent. Mais c'est ça qui est très difficile. Alors, en 2019, l'ITE a demandé, a dit, maintenant, comme on n'arrive pas à connaître ceux qui sont les vrais propriétaires des entreprises minières, pour le contrôle que vous faites, c'est-à-dire il y a un conseil d'administration qui doit contrôler le travail qui se fait. Comme vous n'arrivez pas à le faire, donnez-nous au moins 25% de ceux qui sont dans vos conseils d'administration, ceux qui sont les propriétaires effectifs de vos entreprises. Alors, en septembre dernier, il y a juste un mois, ils se sont encore réunis. Et ils ont vu que, en réalité, tout ce qu'ils ont demandé jusque-là, ça, personne n'arrive à atteindre les 25%. Or, au Ghana, l'État a dit clairement que tout le monde doit quand même être connu par rapport à chaque entreprise minière. Au Togo, il y a également une loi qui dit cela, mais personne ne respecte cette loi dans le secteur minier. Et donc, l'initiative ITE dit désormais, au lieu que ce soit 25% qu'on exige, alors aujourd'hui, nous pourrons aller à 10% ou plus.
D'accord.
Pour permettre de faire déjà un contrôle en interne et pour que l'ITE puisse faire son travail de contrôle définitif général sur toutes les entreprises minières dans nos États.
D'accord. Avant de laisser Isidore et Sam réagir sur le sujet, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs ou à la technique, on revient.
93.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et c'est vrai, Eric nous parlait de cette question alors du secteur minier. Isidore, vous voulez réagir hein, par rapport à cela?
Non, ça ne m'étonne pas. Ça fait plus de combien d'années que moi j'ai su que dans ces entreprises, il y a plus de sociétés écrans. Il y a plus de sociétés écrans. Et la plupart de ceux qui sont derrière sont des roues perchées. Qui ne veulent pas dévoiler leur nom. Ça, je vais vous faire seulement ce parallèle. Hein, et ce qui est arrivé à LCF. Est-ce que vous avez bien fouiné ce qui a conduit à la fermeture de LCF?
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne le dirai pas ici. Allez fouiner, vous êtes journaliste.
Nous avons obligation de protection de nos confrères. Et donc, la confraternité nous demande de ne pas nous prononcer.
Ça n'existe plus. Voilà. Mais je vous renvoie. Oui. Et à la création de ces
entreprises. On parle des industries minières. Ça, tu vas dans LCF.
C'est la même chose, c'est un parallèle. C'est un parallèle que je fais. Et ça participe de l'évasion fiscale des flux financiers illicites. Et quand le Togo a toujours tenu la pole position des flux financiers illicites, quand on en parlait, les gens pensaient que nous inventons des choses. Voilà. Aujourd'hui, ITE est obligé de rabaisser, de diminuer la barre à 10%. Même à 1%, le vrai propriétaire ne va jamais se prononcer.
D'accord. Et ça?
Non, moi, je pense que, d'abord, ITE, c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives.
Oui.
Il faut définir pour permettre aux auditeurs de comprendre.
De comprendre,
bien. Et donc, moi, je pense que si l'ITE prend cette mesure dont évoque le journal L'Union aujourd'hui, c'est d'abord pour connaître qui sont ceux qui sont derrière les industries extractives. Parce que, voilà, les vrais propriétaires. Souvenez-vous, il y a toujours de ces problèmes dans les localités. Quand vous prenez Tablico, Vaughan, dans les zones minières, vous allez voir les populations qui se plaignent des ristournes qu'on doit leur reverser, mais qui ne sont jamais reversées. Et justement parce qu'il n'y a pas un interlocuteur crédible. Celui qui doit être le répondant de la société, il n'y en a pas. Et souvent, quand les gens font le forcing et ils voient les autorités ou ils voient les gérants, souvent parce que c'est les gérants qui sont visibles, on leur dit « allez voir votre gouvernement » ou bien « go and see your government ». Ça, je tiens cette phrase-là d'un défenseur, d'un acteur de la société civile.
Skymine.
Voilà, qui disait qu'ils sont allés voir dans une usine où on demandait aux gens d'indemniser les propriétaires terriens qui ont été expropriés. On leur a dit « go and see your government ». Donc, ça veut dire que derrière certaines sociétés minières, on peut retrouver des gens qui sont bien positionnés. Ils sont bien positionnés, mais ils mettent des gens, des écrans. Il y a des écrans. Eux-mêmes, ils sont derrière. De sorte à ne pas répondre à des soucis qu'on peut y avoir dans l'exploitation des mines ou dans la redistribution des ressources au niveau des populations. Donc moi, je pense que le gouvernement même doit appuyer cette initiative parce que je crois que ce n'est pas au niveau du Togo seul.
Non.
L'ITIE, c'est
56 États.
56 États, donc pratiquement, c'est un truc continental. Et chaque gouvernant doit pouvoir aider l'ITIE à atteindre, si on ne peut pas trouver 25%, au moins qu'on trouve 10%. Dans les 10%, au moins, on sait que ce qu'on a tenu là, c'est les répondants.
Mais Eric, qu'est-ce qui explique le fait que les règles sont là, bien sûr, mais on ne respecte pas ces règles-là?
C'est un peu compliqué. Je parlais plutôt des personnes politiquement engagées. Vous imaginez quelqu'un qui est déjà...
Ministre.
Oui, ministre, une autorité compétente qu'on retrouve comme propriétaire d'une entreprise minière. Ce qui se passe, c'est que Sam a dit quelque chose de très important. Lorsqu'il y a des décisions à prendre, on va faire recours à ce ministre, à cette autorité-là, pour venir décider de quelque chose sur une entreprise qui détient lui-même. C'est compliqué.
Conflit de compétences.
Conflit de compétences, évidemment. Et donc,
conflit d'intérêt.
Et donc, je pense que...
Délit d'initié.
Je pense que...
Délit d'initié. C'est ça. C'est le terme approprié.
Délit
d'initié.
Délit d'initié. On laisse Eric continuer. Eric, vas-y.
Je ne vais pas le dire. Et donc, c'est très compliqué. Vous imaginez, par exemple, quand on parle d'une société extractive, et on dit qu'il y a un contrat à signer entre l'État et cette structure-là. Mais qui va le faire alors qu'il y a déjà quelqu'un qui est déjà au gouvernement ou proche du gouvernement ou qui est un chef de parti politique qui doit venir signer cet accord-là? Vous comprenez que c'est très compliqué. Ce n'est pas seulement dans les 56 pays de l'ITIE. Il y a une étude qui est allée encore plus loin pour voir que, par exemple, vous avez du pétrole vous avez du pétrole quelque part dans un pays et on vous dit que le propriétaire de ce puits de pétrole-là se trouve dans notre pays. Vous comprenez? C'est des gens qui ne veulent pas qu'on sache réellement qu'ils sont à la tête de ces industries extractives-là. Et donc, il y a toujours un conflit d'intérêts qui se passe. Et donc, c'est très compliqué. Et vous savez, au Ghana, tout récemment, il y a eu une situation où, à cause de ce conflit d'intérêts-là, l'État ghanéen a perdu beaucoup de milliards. Ça a fait un grand bruit.
D'accord. Président, est-ce que ce n'est pas à l'État, alors, de taper du poing sur la table pour le respect même, d'ailleurs, de ces lois?
Tu veux que les autorités se fassent harakiri?
C'est qui l'État?
Tu veux que ces autorités se fassent harakiri? C'est pourquoi je parle de délit d'initié. C'est très important. Ce n'est pas un conflit de compétences ni conflit d'intérêt. C'est un délit d'initié. Le délit d'initié, ça veut dire quoi? C'est que tu es aux affaires et ta position ne te permet pas de mener certaines activités.
Ouais.
et tu uses de ta position pour faire ces activités. Ça, on l'appelle...
Indirectement.
Directement.
Directement, vous le faites.
Par personne interposée.
Par personne interposée. C'est pourquoi nous, je parle de société écran. Donc, c'est un délit d'initié. Et c'est puni par la loi.
Oui.
C'est puni par la loi. Vous ne pouvez pas demander à ceux-là qui sont aux affaires et qui ont créé des sociétés écrans pour gérer et faire l'évasion fiscale, les flux illicites, mais de se faire rakiri. Le problème est profond. Le problème est profond. Donc c'est un délit d'initié.
D'accord.
Et quand on ouvre, hein, c'est une bande à Pandore qu'on va ouvrir.
Mais ça, aujourd'hui, à qui la responsabilité même d'ailleurs de faire observer la loi? Parce que déjà, on est dans un méli-mélo.
Qui a le pouvoir régalien de faire respecter la loi? C'est l'État.
C'est l'État.
C'est l'État. Donc, moi, je pense que, en temps normal, les gens, d'autres ont parlé de conflit d'intérêts, moi, je ne dirais pas délit d'initié, mais en réalité, ceux qui le font, ne le font pas à visage découvert. Ça veut dire qu'ils savent que la loi ne leur est pas favorable. C'est pourquoi ils mettent d'autres personnes pour le faire en leur nom. Mmh. Et moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui doit taper du poing sur la table, c'est le chef de l'État. Ou les chefs d'État, parce que ce n'est pas une affaire propre au Togo. Dans tous les pays. Donc, je pense que c'est les premiers dirigeants. Parce que cette affaire-là rentre un peu dans les histoires de corruption, de blanchiment d'argent. Parce que vous allez voir, une seule personne a le beurre, l'argent du beurre, le lait, le miel, tout ça là, une seule personne. Alors qu'à côté, il y a des gens qui végètent dans la misère totale. Mmh. C'est quand ça se passe comme ça. Parce que vous ne pouvez pas être dans une position politique ou dans une position où vous êtes à la tête d'une institution, d'un État, et que parallèlement, vous entretenez une autre entreprise où vous gagnez des milliards, vous gagnez l'argent de l'État. Et à côté, il y a d'autres qui cherchent boulot et ne trouvent pas. Je pense que c'est au niveau des chefs d'État qu'il faut qu'une décision soit prise pour essayer d'identifier les gens qui sont dans des situations comme ça.
Et si on te disait que les chefs d'État même sont...
Ce sont impliqués.
J'en sais rien.
C'est pourquoi il ne peut pas se faire rakiri.
Non, mais aujourd'hui, l'initiative ITIE est en train de mettre quand même des directives pour définir clairement ceux qui sont appelés bénéficiaires effectifs. On dira par exemple que le conseil d'administration de ces entreprises extractives-là, tous ceux qui participent à ce conseil d'administration doivent être dévoilés. Parce que lorsque l'ITIE va faire son contrôle, l'ITIE dira, OK, vous avez dit qu'il y a 20 personnes qui ont assisté à votre conseil d'administration. Mais
Sans émargement.
Mais comment se fait-il qu'il y a tel montant qui a été débloqué pour le conseil d'administration? Il faut justifier tout ça.
Je suis de présence.
Mais non, de l'autre côté... Quand l'entreprise fait des bénéfices, il y a des dividendes que les gens doivent prendre. Maintenant, vous dites que vous avez fait tel bénéfice. Et quand vous faites le partage selon la part de tout un chacun, puisque c'est souvent des entreprises, des sociétés anonymes, et donc tel a 50%, vous dites qu'il a pris tel montant qui dépasse les 50% logiques qui devaient prendre dans le truc. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de flux d'argent parce que ces industries extractives-là, c'est une question d'argent, de beaucoup d'argent.
D'accord.
Et donc, cela devrait logiquement permettre à l'ITIE de faire son contrôle général sur toutes les entreprises minières.
D'accord. Alors, intéressons-nous un peu à la politique. Hein, à la politique, il y a, après le Togo, c'est la RDC également qui s'intéresse au changement de la constitution et surtout avec, en se basant surtout sur nos réalités. C'est bien cela. Alors, le correcteur qui écrit ce matin, constitution adaptée à nos réalités, Tshisekedi sur les traces de Faure. Et également, un autre titre, bien sûr, qui illustre cela, c'est « Mieux comprendre l'origine de la misère au Togo ». Et un autre journal, Isidore Akolor à Tu Express, vous écrivez « Instinct de conservation du pouvoir, Fonia Simbe inspire Félix Tshisekedi ». C'est bien ça?
Évidemment. Tout est parti d'une déclaration le mercredi 25 à Kisangani, où Félix Tshisekedi,
bon, le mercredi devait être 23.
Le mercredi plutôt, disait que bon, la constitution congolaise n'est pas adaptée aux réalités congolaises. Donc, et l'année prochaine, il va mettre sur pied un comité pluridisciplinaire pour réécrire la constitution en tenant compte des réalités du pays. Ça sonnait comme un disque rayé dans ma tête, puisque cette formule, nous la connaissons très bien, et tout Togolais peut vous la répéter. Et ça a suscité un tollé général, et ça m'a inspiré à faire cet article d'analyse pour voir si, ben, alors, Fonia Simbe fait des émules. Fonia Simbe fait des émules sur le continent. Et le syndrome de la conservation du pouvoir a quitté Lomé, est passé par la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui se trouve, puisque en temps, Ouattara aussi s'est inspiré de la révision constitutionnelle pour mettre le compteur à zéro.
Mais est-ce que ce n'est pas un procès d'intention quand nous parlons déjà de conservation de pouvoir?
Mais écoutez, c'est des tours de passe-passe pour pouvoir rester ad vitam aeternam au pouvoir. Mais tenez-vous bien, en 92, si, parce que c'est le Togo qui fait cas d'école, hein. Comme c'était en 63 aussi, le Togo a fait cas d'école en matière de coup d'État. Le Togo aussi fait école en matière de révision constitutionnelle, mettant les compteurs à zéro. Souvenez-vous, en 2005, après des tours de passe-passe, et Fonia Simbe a succédé à son papa, un mode de dévolution du pouvoir anticonstitutionnel qui a été décrié, et finalement, il a pris le pouvoir au travers des élections dont les résultats sont contestés. Et à la fin de son deuxième mandat, il dit que les verrous de la limitation étaient sautés en 2002, alors qu'auparavant, quand on sautait les verrous de la limitation des mandats présidentiel, il était bel et bien un acteur clé en tant que président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Donc il n'est pas innocent. C'est un tour de passe-passe. Ça, c'est le premier tour de passe-passe. Et il a brigué le troisième mandat. Vers la fin de troisième mandat, en 2019, pratiquement quatrième, l'Assemblée nationale acquise à sa cause, a verrouillé, a rétabli la limitation de mandat, mais avec une révision qui mettait le compteur à zéro, qui lui a permis de briguer le quatrième mandat qu'il est en train d'exécuter aujourd'hui. On ne sait ce qui s'est passé. Patatras, une assemblée nationale dont le mandat était arrivé à terme, a jugé bon de pousser le Togo dans la 5e République, où le président de la République ne sera plus élu au suffrage universel. Donc, de tout, de passe-passe en tour de passe-passe, mais Fonia Simbe s'est taillé une présidence à vie. On ne sait pas si tel sera le cas en RDC.
En RDC.
Donc, nous faisons des émules, d'accord, mais pas toujours dans le bon sens.
D'accord. Alors, Sam, est-ce que déjà, avec cette nouvelle constitution annoncée aussi en RDC par Tshisekedi pour, dit-il, s'adapter à la réalité du pays, est-ce que déjà c'est en quelque sorte quelque chose alors de conservation de pouvoir que nous devons regarder de là?
Bon, pour le moment, moi je pense que il y a les intentions de modification de la constitution en RDC. Mais ce n'est pas la première fois que Tshisekedi se prête à ce jeu. Au lendemain de sa réélection, il a évoqué le sujet. Moi, je ne sais pas pourquoi on fait tout de suite le lien avec le Togo. Parce que le gars, ça fait la deuxième fois. La première tentative n'a pas été la bonne. Il a essayé. Et il y a eu un lever de bouclier au niveau du clergé, au niveau de l'opposition. Et il a retropédalé. Donc ça, c'est une deuxième tentative qu'il est en train de pouvoir opérer. Et là aussi, ce n'est pas acquis. Puisque en RDC, il y a quand même une opposition organisée. Il y a des gens qui peuvent faire plier le Étienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi, plutôt. Étienne, c'était son papa.
Voilà.
Il n'a pas... C'est vrai qu'il a la majorité au niveau de l'Assemblée, mais il faut qu'il joue le jeu des alliances pour pouvoir faire cette opération en force. Mais il y a l'ancien président Joseph Kabila, qui est là, qui s'oppose farouchement.
Fayoulou aussi.
Fayoulou aussi, qui s'oppose.
Martin Fayoulou.
Il y a le clergé, l'église, là-bas aussi s'oppose.
Mais Katumbi.
Donc, je pense qu'il y a des situations qu'on peut ne pas comparer. Déjà, lui, il a jeté, c'est un ballon d'essai. Il faut d'abord qu'il réussisse à modifier la constitution pour voir ce qu'il met dans la nouvelle constitution. Et en ce moment, on pourra parler de velléité, de conservation de pouvoir.
D'accord.
Ici, ce qui fait la différence entre là-bas et ici, là-bas, il y a une opposition. Ici, il n'y a pas d'opposition.
Mais vous estimez qu'il n'y a pas d'opposition?
Mais s'il y avait l'opposition au niveau du Parlement, où les choses ont débuté, il y avait quoi? Il n'y avait rien. Après les élections législatives, l'opposition a gagné combien de voix? Alors, quand on a un boulevard devant soi, on peut modifier la constitution parce qu'on a la majorité qualifiée pour le faire. Et quand on modifie la constitution, peut-être même qu'on dit, il se peut qu'eux aussi veulent bien aller dans un régime parlementaire. Mais ça ne donne pas pour autant les coups de franche au président actuel pour qu'il dise qu'il a un pouvoir ad vitam aeternam.
D'accord.
Parce que s'il y a des élections bien organisées, si l'opposition s'organise, elle peut renverser la vapeur.
Mmh. Voilà. Eric, est-ce que les deux situations sont comparables?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je voudrais dire qu'au fait, aujourd'hui, quand vous regardez un peu sur tout le continent, pratiquement tous les pays ont envie de changer de constitution.
Il y a la Guinée, le Gabon.
Tous les pays. Et on ne peut pas se dire tout de suite que c'est elle qui pousse l'autre à le faire. Mais ce sont les réalités de chaque pays qui poussent les politiciens à aller vers cela. Parce que, en réalité, les élections nous coûtent très cher en termes financiers, humains surtout, où à chaque fois, il y a des morts. Des morts pourquoi ? Pour le pouvoir. Dès qu'il y a une élection dans nos pays de l'Afrique subsaharienne, surtout, ou enfin, le Maghreb aussi, il y a des morts. Il faut qu'on arrête cela. Et quand Tshisekedi dit qu'il faut adapter notre constitution à nos réalités, je ne sais pas encore de quelle réalité il parle, quelle est la réalité en RDC, on ne le sait pas, mais faire le lien directement avec le Togo, je crois que les situations ne sont pas les mêmes.
Mais justement, quand vous dites que oui, ça nous coûte les élections et surtout qu'il y a des morts, est-ce que ce n'est pas parce que ceux qui sont là, on ne veut pas respecter quand même ce qui est existant, c'est-à-dire la constitution qui est là?
Mais ceux qui sont là, accompagnés de ceux qui ne sont pas au pouvoir, C'est ensemble, ils le font.
D'accord, ok. Alors, nous allons donner la parole à nos auditeurs, puisqu'ils s'impatientent aussi à rentrer en ligne et à rentrer dans ce débat, hein, participer à ce débat. Mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonces.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô.
Bonjour Pascal.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien chez vous?
Ça va aussi par la grâce de Dieu. Votre nom c'est?
Patrick.
Ah, c'est Patrick.
Voilà.
D'accord, Patrick, allez-y.
Ok. Dans un premier temps là. Votre chroniqueur, le littéraire, il est toujours là?
Non, il est déjà parti. Patrick, s'il te plaît, il semble que ta radio à côté de toi ait fait un peu de bruit là.
D'accord, je vais la diviner un peu. Là.
D'accord, ok.
Alors, bon, il est parti quand même. Ben, j'ai eu une suggestion là. J'apprécie hein, très souvent ce qu'il fait. La manière dont il raconte les ouvrages des narrateurs là. Bon, ça m'intéresse. Mais sauf que je voulais aussi lui proposer, voir s'il ne serait pas bon de nous parler ou bien d'expliquer les ouvrages qui sont prescrits au niveau des écoles présentement, c'est-à-dire de la seconde à terminale, pour que les élèves aussi puissent en bénéficier de son expérience, c'est-à-dire nous détailler un peu comment ces ouvrages-là, de quoi ces ouvrages-là parlent-ils, pour que les élèves aussi s'imprègnent de ce qui se passe aussi dans ces ouvrages-là, quoi.
Oui, Patrick, c'est bien noté parce que nous allons commencer même d'ailleurs le débrayage alors de ces ouvrages dans nos prochaines émissions.
D'accord, ça me ferait plaisir. Mmh. Alors, pour le sniper togolais, là, Adebayo, c'est bien. Vous avez bien parlé de ce qu'il a fait pour ce pays, mais j'ai jamais voulu voir le samedi dernier au cours du match, là, les dirigeants de la fédération, genre Tata Vlissi, Roch Nyasimbe, et ses consorts dans un camp, et de l'autre camp, comme vous l'avez bien dit, les Oloufaré, les Ouadja, les Kader, ça s'affronter. Là, ça peut quand même donner une réconciliation, bien réveiller le football national. Si on voit les anciens dirigeants à la contre, ces joueurs-là, ça va donner envie pour que la paix revienne au sein de la fédération et au sein des éperviers. Maintenant, pour finir, vous avez parlé de changement de conscience que Félix est en train de penser à faire. Bon, vous savez, le Togo, moi particulièrement, ça ne dérange pas, hein, mais sauf que comme ça ne va pas dans le pays, c'est ça quoi. Donc on ne trouve pas manger, les contractuels ne sont pas engagés, le prix du bol, du maïs est élevé, tout ça là, c'est ça. Sinon, nous, bon. Peu importe celui qui dirige, c'est un problème. Mais que nous trouvons à manger, je pense que c'est la solution, quoi. Que nous trouvons à manger pour que nous puissions aussi, qu'ailleurs, nous glorifier que nous sommes vraiment togolais. Voilà mon apport de ce jour.
Merci beaucoup, Patrick. Merci pour cet apport à ce débat. Allô?
Bonjour, Pascal.
Oui, bonjour, Basile. Comment vous allez?
Ah, togolaisement, hein.
Allez-y.
Mon grand frère. Professeur à l'époque, mon professeur à l'époque à Togoville en seconde en 83, il est parti.
Oui, il est parti, Prose, monsieur Assiobo. Oui, Assiobo, il est parti.
Il est parti?
Oui, il est parti.
Pourquoi? Il est venu, les gens vont vouloir lui poser la question.
Non, mais vas-y, c'est juste une chronique. Nous animons cette chronique au début. Oui, c'est une chronique, justement.
Non. C'est mon professeur en seconde en 83 à Togoville. Il fallait voir. C'est un très bon professeur. Et voilà quoi. J'allais lui poser la question sur un texte qu'il nous avait donné. Prière à Dieu de Voltaire, je pense. Oui, Voltaire.
Oui, oui. Bon, mais
ce n'est que partie remise.
Justement, ce n'est que partie remise. Allez-y rapidement, Basile.
Oui, oui. Vous avez parler d'un événement qui a eu lieu, et que jubilé ou bien, qu'est-ce que vous parlez comme ça là? quelque chose comme ça, ouais. Non, le fait, celui qui vient de passer nous a dit l'essentiel. Ce serait bien si c'est un événement rassembleur. Il devait avoir la fédération, le ministère, les anciens coéquipiers, tout ça là. Mais c'est, quand c'est quelque chose qu'on fait et pour se faire voir, et vous voyez comment ça peut se passer. Bon, moi, personnellement, je ne sais pas si on a eu à faire quelque chose ou pas. Et la constitution dont vous parlez, nos deux journalistes parlent que le cas est différent. Pourtant, ils disent que, il semble que monsieur le président Tshisekedi aussi dit qu'il y a trop de l'argent qu'on gaspille et qu'il y a trop de violence et à cause de ça qu'il change. En quoi c'est différent du cas togolais? Non, ah, dit que ça fait rire des fois quand j'entends. Bon, on ne va pas être dans ça éternellement. Il faut qu'un jour, on s'arrête.
D'accord.
Le développement de notre pays en dépend. Je vous remercie.
Merci, Basile, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
Nyamavo. Mais...
allez-y.
Oui. Modification de la constitution en République congolaise. Oui, je salue Gosson. Tout part d'ici.
Non, Gosson n'est pas. A... oui, Gosson n'est pas ici. Vous voulez parler de Isidore?
Isidore. Oui, c'est Isidore. Mm. Vous voyez, comme on le dit, la constitution, c'est comme une Bible pour un pays. Il y a des dispositions dans la constitution. Intouchable, verrouillé. Cependant, on ne peut pas évoluer sans modifier certaines choses si on a la majorité à l'Assemblée. Mais il y a certaines dispositions qu'on doit revenir voir le peuple, comme le cas du Togo. Au cas où on veut modifier le mandat présidentiel, on doit revenir consulter le peuple. Maintenant, selon les intellectuels, soit vous passez, vous hors droit, vous allez dans Messa droit, ça dit par un coup d'État pour modifier toute la constitution par vous-même et non par le peuple. En soit, c'est ça. Mais Tshisekedi aura du blocage. Ici, on est intelligent, on le fait sagement, on le fait nuitamment, puis on informe. On sait que quand ça va soulever, il y aura des débats, ça va parler. Donc, au Congo, par exemple, ça ne va pas marcher parce que les voix se lèvent déjà, il y aura du blocage. Ici, ils se sont entendus rester dans une chambre et le faire et venir dire que voilà, nous avons fait tout l'État, on vous impose ça, on met les chars dans les coins des rues, gare à quelqu'un qui va brocher. Donc, c'est ça, nous vivons au Togo. Or, les gens vont ramasser des riz avariés dans les dépotoirs pour parler de Dieu, les gens qui sont au gouvernement, qui créent encore des entreprises. Voilà, on se retrouve et puis on mange ensemble, quoi. Et puis on s'en fout des Togolais. Bonne émission.
Merci, M. Nyamavo, pour votre intervention. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez? C'est M. Mauto.
Oui.
Allez-y.
Bon, par rapport au changement de constitution... en NDC. Moi, c'est la même chose hein, comme au Togo. Hein. Moi, je vois que c'est comparable. Hein. Monsieur Isidore a raison. Il a tout dit. Toutes les formes de processus qui en Afrique, il était sur le Togo. Le Togo initié les autres en boîte de pas. Maintenant, si quelqu'un dit que c'est une condition en NDC, là, qui va régler le problème entre le Rwanda et le rebelle, les rebelles là, qui sont là-bas. C'est ça, c'est pas débat, quoi. C'est la même chose. C'est le Togo qui est le mauvais en Afrique. Merci, bonne émission.
Merci à vous aussi, M. Mauto, pour votre intervention. Alors, chers confrères, nous revenons en studio, puisque c'est M. Mauto, c'est le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce mardi. Nous revenons en studio alors pour clôturer cette émission avec un dernier tour de table. Eric, vous avez écouté les uns les autres se prononcer aussi sur l'actualité telle que débattue ici au Club de la Presse. Votre réaction?
Non, je voudrais dire que c'est vrai, il faut que lorsque vous êtes une légende dans un pays, il faut apporter quelque chose de positif. Quand les auditeurs parlaient de Chéhi, ils ont plutôt donné des conseils pour que Chéhi reste dans son cocon de légende. Cela pourra aider le football togolais à aller de l'avant. En ce qui concerne la politique, oui, chaque pays a ses réalités. Il ne faut pas l'oublier. On parle de la constitution où il y a des dispositions qui sont intouchables. Je crois que lorsque dans la même constitution, il y a d'autres dispositions qui permettent de contourner cette disposition-là, le politicien l'utilise et justement pour capitaliser cela en sa faveur. Et donc, c'est ce qui se passe souvent. Alors, avant que l'on dise que c'est des dispositions intouchables où il faut retourner voir le peuple, il faut déjà sauter tout ce qu'il y a comme verrou de contournement de cette disposition-là dans la Constitution. Cela apporterait beaucoup.
D'accord. Sam ?
Oui, moi, je pense que Eric a dit l'essentiel en ce qui concerne Adebayor. Les uns et les autres ont compris que c'est une légende, c'est vrai. Mais son jubilé devrait aussi contribuer à beaucoup plus réconcilier les dirigeants de la fédération. Parce que n'oubliez pas que le temps de Roch Nyasingbé, après il y a eu Amei, il y a eu Tata Vlessi, et tous ces anciens présidents-là, jusqu'à ce jour, continuent de se regarder en chien de faïence. Et donc chacun, selon son palmarès ou son parcours, voudrait que le Togo n'excède pas ce que Lula a pu faire. Donc ça veut dire que les gens sont dans leur coin, mais ils prient pour que les éperviers n'aillent pas loin. Donc ça devrait être aussi une occasion pour que, même au niveau de la fédération, que les gens, qu'il y ait une paix dans tous les cœurs et que le football togolais, sur la base de ce jubilé-là, puisse prendre de nouveaux horizons. Maintenant, pour ce qui concerne le changement de la constitution au niveau de la RDC, il y a eu un auditeur qui disait que, en fait, changement de constitution ou pas, ce qui est important pour les populations, c'est de manger à leur faim, c'est de ne pas aller sur les dépotoirs, se servir du riz avarié et tout ça là. Mais moi, je pense que déjà, en changeant les constitutions, comme le cas dans le cas d'espèce du Togo, on réduit la fréquence des élections. Et ça veut dire qu'il y a d'énormes sommes d'argent que le pays économise. Au lieu d'investir ces sommes d'argent dans les élections, si on peut réjaillir ces argents-là dans l'accompagnement, soit des petites entreprises, soit encourager les producteurs locaux pour intensifier la production et réduire un tant soit peu la misère, je pense que ça serait une bonne chose.
D'accord, Isidore.
Je ne vais plus revenir sur le sujet de révision constitutionnelle, mettant les compteurs à zéro ou permettant par des jeux de passe-passe à un président de rester éternellement au pouvoir. C'est moi qui ai lancé le débat. Je laisse à toute personne de pouvoir cogiter et réfléchir sur le débat que je viens de poser. Revenons à notre icône. Et Adebayor.
Chéhi Emmanuel Adebayor.
Qui ne juge que par sa richesse et autres. Je vais lui donner seulement l'exemple d'une de mes idoles. Et quand on était tout petit, enfin, dans la jeunesse, Michael Jackson. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste-là, Jaspiré.
Tu es en train de poser la
question. Il était immensement riche. Mais sa fin était catastrophique. Je ne le souhaite pas à Chéhi.
D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Isidore Color, merci d'être passé.
Oui, nos cartons, non ?
Mais rapidement, votre
nom. Alors, non, je voudrais juste dire qu'il y a eu deux événements culturels majeurs cette semaine où la foire d'Ifezi a déjà donné sa date, celle du 25 décembre 2024 au 5 janvier 2025 à Sokodé. Donc, vous savez, la foi difficile.
Finalement, vous ne donnez pas de notes.
Non, c'est pour dire que c'est une très bonne organisation.
Après, il va passer à la comptabilité.
À la comptabilité, pour en parler. Ida Colomb, merci. Merci d'être passé dans cette émission. Eric Parcoudio-Johnson, merci d'être passé. Vous êtes le directeur de publication du journal L'Union pour la Patrie. Sam Diobo, merci d'être passé aussi dans cette émission, directeur de publication de L'Éveil de la Nation. Et Atu Express, c'est le journal alors de Isidro Atialo Akolo. Merci à tous, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis et appelés aussi. Merci à Thomas Ete, Kossi d'ATV qui a assuré la mise en onde. Je suis Pascal Ossou. Jérôme Dakouta nous a aidé également à ce que vous nous suivez alors sur nos médias digitaux. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien, surtout prenez soin de vous. Au revoir.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.